Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Quels sont les coûts supplémentaires liés aux situations de handicap assumées par les personnes handicapées et leurs familles? C'est très important comme question. Il y a même plusieurs études dans le monde anglo-saxon qui ont démontré toutes sortes de choses et aussi un laboratoire ou un centre de recherche québécois, le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, qui a étudié de près la question. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un constat général, en tout cas. La présence d'une personne en situation de handicap dans une famille est directement reliée à un moins bon revenu. Ça, on remarque ça de par le monde et bien sûr au Québec aussi. Vous allez comprendre donc pourquoi l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, a mandaté des chercheuses en 2012 pour faire la lumière sur ce dossier. Et donc, pour en discuter, d'abord avec nous, Lucie Dumais, professeure et chercheuse à l'École de travail social à l'UQAM. Bonjour, Madame Dumais.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Et Marie-Josée Mignacca, activiste, qui a vécu cette situation, qui est avec nous. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien.
Bon, alors, on va s'ajuster un peu au cours de l'entrevue pour être sûr que tout le monde s'entend bien. C'est comme ça qu'on fait à la radio. Et si vous permettez, Madame Dumais, j'aimerais d'abord parler avec Marie-Josée Mignacca. Donc, vous m'entendez bien, tout va bien. Oui. Je m'adresserai d'abord à vous, Marie-Josée, parce que vous avez une vie pleine, bien sûr, mais aussi pleine de dépenses, il faut le dire. Et vous êtes née avec la paralysie cérébrale à une époque où il n'y avait aucun service ni aide pour les personnes dans cette situation. Et c'est souvent vos parents qui ont dû faire du travail, en tout cas au début de votre vie. Parlez-nous un peu de cette époque-là.
Effectivement. Moi, je suis née en 1946. Mm-hmm. Alors, il n'y avait absolument rien. J'étais un enfant prématuré.
Oui.
Alors, dès le jour 1, mes parents ont dû débourser 40 $ pour m'amener à l'hôpital afin d'être hospitalisée. On peut dire qu'un enfant qui naît avec un handicap tel que la paralysie cérébrale, c'est après ma mort, avec les années, qu'elle vivra toujours sur le seuil de la pauvreté. Depuis le jour 1, mes parents ont participé à mon intégration en tant que personne humaine,
ouais.
Mais m'ont supporté sur le plan financier.
Ouais.
L'État, ce n'est qu'une infime partie.
Puis évidemment, c'est encore pire en 1946, mais ce n'est pas terminé encore aujourd'hui,
ça,
c'est pas simple.
Ça termine jamais. On est toujours financièrement en déficit.
Vous avez dû vous battre beaucoup pour obtenir les services que vous avez parce que vous en avez finalement, malgré tout,
oui.
Des années plus tard et à un âge, je vais pas le dire en nom, on ne dit jamais l'âge des femmes.
Mais vous pouvez le dire. Parce
je peux
que
le dire.
Pour moi, c'est pas honteux.
Non, pas du tout.
J'aurai 71 ans en juillet.
Oui, et vous êtes toujours une activiste.
D'accord.
Vous avez toujours, vous prenez la parole régulièrement, vous battez toujours.
J'ai pas le choix.
Oui.
Je me suis impliquée dans toutes les ressources dont j'ai eu besoin.
Ouais.
C'est un héritage que j'ai reçu de mes parents. Alors, j'ai suivi ce qu'on m'a enseigné.
Bon.
On a cru en moi et j'ai continué.
Ça, c'est heureux. On a cru en moi et j'ai continué. Et vous vous battez, vous avez la langue déliée. C'est très heureux. Quelques exemples. On va parler plus tard. Vous avez comme dépense très importante l'accompagnement qui est mal reconnu. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. C'est quoi l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap?
Pour les personnes en situation de handicap, l'accompagnement est une ressource indispensable.
Mm-hmm.
C'est très bien de déterminer les besoins de la vie quotidienne, mais lorsque nos préposés ont quitté le domicile,
ouais.
qu'on n'est plus capable de faire certains transferts tout seul ou de mettre notre manteau, la vie sociale en prend un coup.
Ah, c'est ça, c'est elle qui paye le plus, au fond.
Oui.
Mm-hmm.
Et plus que ça, quand je parle de vie sociale, l'OPHQ n'a pas encore statué pour permettre... Moi, quand j'ai eu 65 ans,
mm-hmm.
j'ai appelé l'Office des personnes handicapées. Ils ont un programme d'accompagnateur pour les études.
Mm-hmm.
Moi, je dis, je vais retourner soit au cégep, soit à l'université pour le plaisir,
ouais.
pour créer des contacts, pour apprendre.
Ouais.
C'est une personne très curieuse.
Ouais.
On m'a répondu, ben non, Marie-Josée, tu vas pas retourner aux études, tu veux pas aller chercher un diplôme.
Non.
Mais une personne âgée peut étudier.
Ben voilà, une personne âgée peut étudier toute sa vie. Et c'est sûr que là, c'est pas associé à un travail, mais c'est pour des raisons humaines.
Oui.
Et on ne voulait pas compenser ce moyen-là. On reviendra peut-être à ce qu'il y a à faire, je dirais, politiquement. Mais d'abord, avec nous, on a la chance d'avoir Lucie Dumais, qui est professeure et chercheure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Je suis désolé. J'ai failli faire un impair. Et donc, vous avez travaillé à cette étude qui s'intitule « Identification des coûts supplémentaires généraux liés aux déficiences, incapacités et situations du handicap assumées par les personnes handicapées et leurs familles ». Donc, c'est pour que les personnes puissent le chercher là, sur Internet. Mais avant tout, avant de parler du cœur de l'étude, rappelez-nous ce qui vous a été confié, ou plutôt le contexte en 2012, avant le début de cette étude.
Bon, écoutez, l'origine, c'est... bon, ça remonte quand même à, disons, au moins 20 ans. Mais pour...
Ah oui.
Parce que, comme l'a dit Mme Mignacca, ça fait longtemps que des personnes handicapées et leurs associations se battent pour faire reconnaître les dépenses supplémentaires qu'elles ont par rapport à la population qui n'est pas en situation de handicap.
Mm-hmm.
Mais plus proche de nous, la politique du gouvernement du Québec, qui s'appelle « À part entière
mm-hmm. »,
l'a bien signalé. Une de ses 11 priorités, c'est de revoir tout le système de compensation des coûts pour les personnes handicapées.
Mm-hmm.
Alors donc, ça, c'est à l'origine de la demande de l'Office des personnes handicapées, qui au nom, qui est un organisme conseil du gouvernement. Et là, l'Office a demandé qu'on fasse une nouvelle étude sur ce sujet-là.
Ben,
et donc,
oui.
Nous sommes venus identifier quels étaient ces coûts supplémentaires généraux.
OK. Parce qu'il y a plusieurs types de coûts. On n'entrera pas tout de suite dans les types de coûts.
Mm-hmm.
Mais donc, c'est clair, il y a une pression du mouvement. Le PHQ répond à son plan, sa politique.
Mm-hmm.
Et donc, vous initiez une recherche en 2012.
Oui.
Comment vous avez fait pour trouver l'information sans entrer dans les dédales méthodologiques?
Bon, écoutez, c'est l'idée, c'est d'abord de demander aux personnes et aux familles elles-mêmes quelles sont les dépenses.
Mm-hmm.
C'est pas forcément le meilleur moyen. Il y a plusieurs moyens qui sont identifiés dans les recherches au niveau international. C'est une façon de l'approcher, le problème, c'est une méthode qu'on a utilisée, nous. On est allé donc interviewer des personnes et des familles dans trois régions du Québec qui représentaient aussi différentes catégories socio-économiques,
mm-hmm.
Un petit peu plus riches, à des revenus très faibles.
Ah oui, c'est important.
Et aussi avec ou sans enfants.
Mm-hmm.
Alors donc, c'est une variété de ménages et de familles qu'on est allé interroger.
Et donc, passons maintenant à ce que vous avez identifié comme coût. Donc, quand on parle de coûts généraux non garantis, on parle de quel coût exactement?
Bon, alors, si, évidemment, il y a une foule de coûts parce que c'est tout à fait relié à la vie en général des personnes et de leur quotidien.
Mm-hmm.
Donc, selon une variété de situations du quotidien, on en a utilisé une douzaine à partir d'autres recherches qui sont faites dans le domaine, là, les habitudes de vie, là, il y en a qui comprendront ça, mais disons qu'on a utilisé à peu près une variété d'une douzaine d'habitudes de vie au quotidien,
mm-hmm.
et sur l'ensemble de ces 12 habitudes de vie, on a retrouvé que justement, tout ce qui concerne l'accompagnement, mais aussi le transport,
oui.
l'accompagnement dans des activités, c'était une source de coûts supplémentaires.
Mm-hmm.
La deuxième, ça concernait tout ce qui a trait à l'habitat, l'habitation, le logement, l'aménagement d'un appartement, d'une maison, etc. Et enfin, il y avait tout ce qui concerne la santé et les soins personnels. Bon, des médicaments, des soins particuliers, tout ça, ce sont des coûts qui parfois sont couverts en partie par des programmes qui existent et parfois ce n'est pas du tout couvert.
Ben
alors
oui.
Ça, c'est à peu près la douzaine, là, c'était les trois grandes catégories qui faisaient, disons, je peux utiliser l'expression, qui faisait le plus mal au portefeuille des familles et des ménages.
Et peut-être il y a deux éléments là, sur lesquels vous consacrez beaucoup de temps aussi. Vous parlez de ces trois priorités-là, mais le transport et l'habitation, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Madame Miniaka opine, le transport, qu'est-ce que vous avez relevé exactement comme coût supplémentaire ou comme problème, j'oserais dire, économique occasionné par le transport?
Alors, évidemment, c'est tout ce qui concerne... Je vais reprendre ce que Mme Miniaka a dit. L'accompagnement.
Oui.
Selon le type d'incapacité qu'on a, on a besoin de différents genres d'accompagnement.
Mm-hmm.
Les personnes qui ont des incapacités sensorielles, ils ont souvent besoin de personnes qui les accompagnent pour leur dire où aller, comment faire, etc.
Passons, entre autres, aux personnes aveugles.
Voilà, mm-hmm. voilà. Et là, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner.
Oui.
Et ça coûte de l'argent se faire accompagner
oui.
Pour des activités, par exemple. Donc, il faut payer non seulement sa propre entrée, mais l'entrée de la personne qui nous accompagne.
Parce qu'il existe des programmes, mais ce n'est pas toutes les activités ou toutes les sorties ou tous les lieux où c'est gratuit pour les accompagnateurs.
Alors, vous touchez un point très important.
Mm-hmm.
Évidemment, on va aller, les programmes vont aller, disons, à ce qui est fondamental. Si on a des déplacements à faire pour aller à l'hôpital,
mm-hmm.
ça va souvent être couvert et
oui.
couvert en bonne partie. Mais si on veut
mais si on a une vie en santé,
monde, c'est compliqué, c'est ça.
Voilà.
Mais le loisir, c'est comme si ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça existe, des programmes pour d'accompagnement en loisir, mais disons que...
Pour les personnes qui ne sont pas des jeunes, c'est plus difficile.
Voilà.
Bon. Madame Miniaka veut ajouter quelque chose, si vous permettez.
Je vais vous parler d'une dépense récente que j'ai eue.
Oui.
J'ai mon ami d'enfance qui est décédé.
Ouais.
Alors, pour aller à ses funérailles, ça m'a coûté 100 $.
Hmm. Oui, voilà.
Et là, c'est récent. Il n'y a même pas 10 jours.
Mais on parle... Vous êtes quand même dans une situation économique très précaire. Le 100 $, c'est beaucoup, là.
C'est beaucoup,
hmm.
étant donné que j'ai maintenant une pension de vieillesse.
Oui.
C'est pas énorme.
Non, c'est sûr. Et donc, on illustre bien là, ce qui se passe. Effectivement, il faut rappeler que les personnes aveugles aussi ont toutes sortes de compensations. On peut lire dans votre étude qu'il est difficile aujourd'hui de vivre sans ordinateur qui relaie toute l'information par la synthèse vocale ou même les tablettes, le téléphone intelligent. Vous mentionnez ça dans l'étude, c'est important de le dire, mais c'est onéreux et si on a le malheur de ne pas avoir d'emploi, c'est très difficile d'accès. Donc, j'encourage les gens à y aller, mais ceci dit, Lucie Dumais, professeure et chercheure à l'École de travail social, 3 ans après cette publication, est-ce qu'il y a des résultats concrets?
Bien, c'est malheureusement, nous sommes en contexte de resserrement des programmes. Hein. On
mm-hmm.
a utilisé le mot austérité assez souvent.
Oui.
Et donc, ça affecte l'ensemble des programmes, évidemment, ce qui concerne les personnes handicapées aussi.
Mm-hmm.
Ce qui est dommage, c'est que il y aurait des petites solutions à mettre en place.
Allez-y brièvement.
Par exemple, tout ce qui concerne des déductions fiscales ou des bonifications fiscales, ça pourrait être donné à l'ensemble des personnes handicapées plutôt que d'être réservé à des personnes qui ont ont de l'impôt. C'est-à-dire que
ah oui.
il y a des mesures actuellement qui semblent favoriser davantage des ménages qui ont déjà certains revenus puis qui peuvent dépenser de l'argent
pour
des services, mais les ménages les plus pauvres n'y ont pas droit.
C'est ça, pour que
alors,
les gens comprennent bien.
L'équité, là, mm-hmm. La première chose qu'il faudrait essayer de cibler, c'est l'équité entre les personnes handicapées, les ménages de personnes handicapées. Ça, c'est une première chose qu'on a découverte et je pense que ça serait un premier pas à faire pour le gouvernement. Et ensuite, on verra aussi à rehausser pour l'ensemble des personnes handicapées, de tous les ménages de personnes handicapées, qu'il y ait de moins d'écart avec la population qui n'est pas en situation de handicap.
Lucie Dumais, vous avez été éloquente. Équité, c'est votre mot d'ordre et le mot de la fin de votre recherche 3 ans après. On peut la consulter, hein? Rappelons que ça a comme titre... Donnez-moi un instant. On va le retrouver, c'est certain.
Vous pouvez aller sur le site du laboratoire. Il y a aussi des résumés.
Oui.
Et des affiches synthèse. Là,
OK,
avec
bien.
Des petites affiches synthèse. Là. Allez voir ça.
Donc, c'est la REPS, c'est l'acronyme du laboratoire sur les recherches et les pratiques sociales. Marie-Eugène Mignacan.
Est-ce que je peux poser une question, Madame Dumais?
Malheureusement, on est vraiment à la fin. Peut-être que vous pourriez nous indiquer la question, puis en fin d'émission, je vous le dirai par la suite. Donc, Marie-Josée Mignacan, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour exprimer qu'au fond, ça coûte quelque chose d'être en situation de handicap, puis on espère plus d'équité.
Merci.
Merci.